Voilà, donc alors on va retourner donc à la fin, comme je disais en début d'émission, on va s'intéresser un peu à tout ce qu'il dit, à tous ces débats ou ces pseudo-débats ou ces personnes qui ne veulent pas qu'il y ait débat. Hein. Bon, on ne peut pas tout le monde, c'est une élue des Républicains si vous allez un peu sur les réseaux sociaux, vous suivez un peu l'actualité du cirque Lyon. Une politicienne, une élue des Républicains qui débattait ou qui essayait de débattre, ou c'est plutôt le député des Républicains qui essayait de débattre avec sa collègue des Républicains, et en tout cas il n'y arrivait pas trop. Elle disait qu'il fallait pas ouvrir de débat sur le cannabis, que c'était complètement inutile, qu'il y avait déjà eu un débat, que l'affaire était réglée, que c'était même dangereux d'ouvrir un débat. Je sais pas si vous voyez. Et lui, tout républicain qu'il est, il disait bah si, il faut absolument ouvrir un débat et il faut peut-être changer de politique. Voilà, donc on va voir un peu tout ça. Plusieurs articles, lefigaro.fr, le patron des députés PS veut un débat sur le cannabis. Dans Libération, c'est Michel Henry qui nous reparle un peu du rapport Vaillant en citant Patrick Mennucci. Voilà, donc je cherchais son nom à cet élu des Républicains qui était opposé à, je me rappelle pas son nom, à sa collègue donc des Républicains dont j'ai mangé le nom. À Marseille, ce n'est pas le cannabis qui tue, c'est la prohibition, par Michel Henry. Voilà, donc tout ça, ça fait couler un peu d'encre. Et pourquoi est-ce qu'on reparle un peu d'ouvrir des débats et tout ça? Ben, à cause de ce qui s'est passé à Marseille, dans une cité où deux jeunes sont morts par balle il y a une dizaine de jours. Voilà, donc qu'est-ce que dit le Figaro dans le scan politique de cet article du 26 octobre, donc de lundi dernier déjà. Alors que les banlieues restent minées par le trafic, Bruno Leroux, donc du PS, souhaite que la classe politique puisse mener une réflexion sur le sujet du cannabis et accuse la droite de bloquer les débats. Christiane Taubira également réclame ce débat depuis très longtemps, et la semaine dernière, elle en a reparlé, enfin en tout cas un journal a reparlé des propos de Christiane Taubira, en disant même que Christiane Taubira, en remettant le sujet du cannabis de la procréation médicalement assistée, et je crois où il y avait autre chose, sur le tapis, Christiane Taubira, disait les journalistes, n'est-elle pas en train de se suicider politiquement? Voilà, ce qui était assez incroyable. Moi, je pense que ceux qui se suicident politiquement, c'est ceux qui disent qu'il faut pas ouvrir le débat, qu'il faut pas débattre et qu'il faut rester dans le statu quo de la prohibition. Je pense que c'est plutôt eux qui se suicident politiquement plutôt que Christiane Taubira, qui à mon avis a plusieurs longueurs d'avance sur le sujet, comme Esther Benbassa d'ailleurs. Il y a pas mal de politiciens qui déjà ont ouvert leurs yeux et leurs oreilles depuis de longues dates. Voilà. Bruno Leroux est présenté dans cet article du Figaro comme un proche de François Hollande, qu'il est soucieux du respect des consignes du couple exécutif, donc Hollande-Valls, et qui propose d'ouvrir donc un débat sur la question du cannabis, alors que le gouvernement tenait lundi 26 octobre dernier un comité interministériel au Mureau dans les Yvelines sur la question des banlieues et après l'assassinat des trois jeunes, donc pas deux comme je disais, mais de trois jeunes liés au trafic de drogue à Marseille. Alors attention, on nous dit que c'est un assassinat sur des questions ayant un rapport avec le trafic de drogue, alors qu'en fait les résultats de l'enquête ne sont pas connus, donc on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Il faut quand même être prudent. Hein. Voilà. Donc Bruno Leroux souhaite que donc la classe politique mène une réflexion sur des solutions alternatives à la pénalisation. Alors il disait, Monsieur Bruno Leroux, j'aimerais que sur cette question on arrive à créer un consensus pour ouvrir le débat. Bruno Leroux, qui est le patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Alors il se prononce pas hein, cet article du Figaro. Bruno Leroux, on ne prend pas de propos le concernant à propos d'une proposition de légalisation ou même de dépénalisation. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans plusieurs de ces articles aujourd'hui, eh bien, ce qui est pointé, c'est qu'en fait, à partir du moment où on commence à parler de débattre ou éventuellement même ne serait-ce que d'en parler au sujet du cannabis, tout de suite, la droite bloque tous les débats et se met à hurler en disant que la gauche est laxiste à ce sujet, alors qu'ils ont même pas réfléchi à la question. Voilà, c'est exactement l'illustration que le Cirque Lion a fait en 2013 pour fêter son anniversaire. Un dessin où on voit François Hollande se remettre un gâteau d'anniversaire au clown du Cirque Lion et avec dans sa poche un projet de loi de légalisation et Manuel Valls qui arrive en courant la matraque à l'air en criant « Non, François, fais pas ça, on va encore se faire traiter de laxiste par la droite ». Voilà, on en est toujours là. Ça fait des années, des décennies qu'on en est là. À partir du moment où quelqu'un veut faire quelque chose sur le cannabis, les plus réacs de nos politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, voilà, se mettent à hurler en disant que ah, c'est laxiste. Alors qu'en fait, le laxisme, c'est de ne rien faire, c'est de ne pas légaliser et de ne pas changer de politique et de maintenir cette prohibition qui provoque tout un tas de dégâts. Voilà. Donc Bruno Le Roux rajoute « En empêchant absolument toute réflexion pour savoir comment faire en sorte de tarir les flux d'argent, comment faire en sorte de tarir les trafics, parce que ce sont des réflexions utiles, eh bien voilà, on est dans un jeu de rôle, il y a ceux qui crient au laxisme et ceux qui condamnent absolument tout résultat possible, déplore-t-il. » Alors, le président du groupe PES, donc Monsieur Le Roux, assure en discuter depuis des années avec Daniel Vaillant, voilà, qui est peu connu pour son laxisme. Monsieur Vaillant, qui est quand même bien connu pour avoir été l'auteur d'un rapport remarqué en 2011 et qui était en faveur d'une légalisation contrôlée du cannabis. Des socialistes s'étaient prononcés dans ce sens, comme la députée Anne-Yvonne Le Dain, qui proposait il y a un an, dans le cadre d'un rapport, dans le cadre d'une commission d'enquête qui avait publié un rapport sur une vente du cannabis sous contrôle de l'État, avec un député Les Républicains qui s'appelle Monsieur Marcangeli de Corse. Au sein du gouvernement socialiste, outre Christiane Taubira, il y avait Vincent Peillon, il y avait aussi Madame Duflot qui s'était proposée pour une ouverture d'un débat sur la dépénalisation. Mais que ce soit Duflot ou Peillon, bah, on sait bien qu'il s'était complètement, il s'est fait bien recadrer par Valls et Hollande. Et puis dernière incartade en fait de notre premier ministre, c'était à l'été, au mois de juillet, où Manuel Valls disait on peut toujours débattre de ces questions, mais le gouvernement ne prendra aucune initiative qui légalise, autorise ou dépénalise l'usage du cannabis, assurait-il. Il disait on peut même toujours en parler, mais le débat est clos. Donc voilà un peu ce qui se dit dans le Figaro. Dans Libération du 29 octobre, le rapport Vaillant de juin 2011 prônait déjà une légalisation contrôlée. Patrick Mennucci est favorable à la légalisation. Voilà. Donc, dans cet article, c'est marrant ce que dit un peu Michel Henry. En tout cas, à gauche, bah voilà, comme il dit Michel Henry, ils ne veulent pas qu'on retombe dans la vieille accusation de gauche pétard, même si elle tient pas la route, il faut quand même savoir que la gauche sous Hollande est plus répressive contre les usagers du cannabis que la droite le fut sous Sarkozy. À chaque fois que l'on cherche à ouvrir ce débat sur les drogues et le cannabis, c'est toujours le procès en laxisme qui l'emporte et fait que tout le monde recule, regrette donc Bruno Le Roux. Mais ils ont fumé ou quoi? La relance de ce vieux serpent de mer est partie de Marseille après le meurtre dans une cité de la ville de trois jeunes, dont deux ados de 15 ans, dans le week-end dernier. Mais même les esprits les plus obtus se rendent compte que ce n'est pas le cannabis qui tue, mais c'est la prohibition. D'où le titre de l'article suivant de Michel Henry, toujours, qu'on va voir après. Patrick Mennucci, donc le député PS de Marseille, disait lundi soir sur Canal Plus qu'il est désormais favorable à la légalisation, alors qu'avant il pensait le contraire. Il a expliqué à La Provence pourquoi il changeait d'avis. La situation actuelle, dit-il, est la pire qu'on puisse imaginer. En effet, on a tous les inconvénients, mais aucun des avantages en termes de prévention et de fiscalité. L'élu constatait que la guerre menée par l'État, quels que soient les moyens engagés, le travail exceptionnel de la police qui démantèle un réseau après l'autre, mais ça n'empêche rien, et que donc voilà, il préconise de créer des filières sous monopole d'État, de la production jusqu'à la distribution. ce qui assécherait les réseaux. Dommage qu'il ne parle pas d'autoproduction aussi, sinon ça serait vraiment vraiment génial, mais bon, faut pas non plus rêver. Une de ses collègues socialistes, Marie-Arlette Carlotti, également ancienne ministre aux personnes handicapées, a exprimé une position similaire lundi dernier contre la violence dans les cités, ouvrant le débat de la légalisation du cannabis. Mais comment vont-ils faire ? Pourtant, le PS a un bon point de départ. Le rapport Vaillant de juin 2011, qui prône une légalisation contrôlée, un travail énorme fait par Vaillant, qui avait d'ailleurs auditionné des membres du cirque. Donc c'est à lui que M. Leroux faisait référence, indiquant qu'il évoque le sujet depuis des années. Avec donc M. Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur, et donc, comme je disais, peu connu pour son laxisme. Les esprits moqueurs constateront qu'en la matière, les socialistes se montrent aussi réactifs qu'un panda défoncé au bambou cherchant la télécommande devant sa télé bloquée depuis 3 jours sur la chaîne parlementaire. Il leur aura fallu plus de 4 ans pour se souvenir de ce rapport qu'ils ont soigneusement enterré dès sa sortie. Eh oui. Entre-temps, une autre de leurs collègues, Anne-Yvonne Le Dain, députée PS de l'Hérault, a produit un rapport très complet en novembre 2014 prônant de créer un marché régulé. Mais écoutez bien, il apparaît que certains collègues du PS ne sont même pas au courant de son existence. C'est dire déjà à quel point ça les intéresse, ou surtout ça ne les intéresse pas, qui sont complètement bloqués dans leur certitude prohibitionniste. Mais du coup, qu'en débattre et dans quel but ? Bah, ce qui est dommage, c'est que le Sénat a rejeté en avril dernier une proposition de loi de l'écologiste Madame Esther Benbassa, qui visait à autoriser justement l'usage et la vente contrôlée par l'État du cannabis. Le débat aurait pu avoir lieu dans ce cadre. On peut toujours le relancer, mais comment et quand ? Alors, sans doute pas avant les élections régionales des 6 et 13 décembre, déclare Monsieur Mennucci. Et débattre, pourquoi faire ? L'idée fait son chemin, mais c'est une autre chose que passer à l'action. À commenter sur Facebook notre ami et président émérite Jean-Pierre Galland, et donc vieux militant de la légalisation. On attend quand même néanmoins avec impatience ce débat promis, je sais pas s'il est promis, mais surtout pour voir qui sera le premier à se faire taper dessus par l'exécutif, François Hollande comme Manuel Valls étant opposé à tout changement, à moins que face aux évidences ils changent eux aussi. Voilà. Ce qui va arriver, c'est que la droite va dépasser la gauche sur sa gauche, que le PS va se retrouver gros gens comme devant et qu'ils vont encore rater une bonne occasion de faire quelque chose qui aurait pu leur profiter, qui soit profitable à la jeunesse, aux jeunes des quartiers et tout. Mais bon, vu qu'ils sont pas pragmatiques au PS et que visiblement ils ont pas retenu les leçons du sida, du sang contaminé des années 80, tant pis pour eux, quoi. Voilà. Toujours dans Libé, toujours Michel Henry, Marseille, ce n'est pas le cannabis qui tue, c'est la prohibition datée de lundi dernier, qui commence comme ça. Est-il acceptable de mourir sous les balles dans une cité en France quand on a 15 ans ? Non. Bah, c'est pourtant ce qui s'est produit à Marseille, cité des Lauriers, dans la nuit de samedi à dimanche. 2 ados et un homme de 23 ans ont été tués dans une cage d'escalier. Règlement de compte, victime touchée par hasard, intimidation, garde au territoire, on ne sait. Cette cité étant un lieu de deal. L'hypothèse de meurtre lié au trafic de stupéfiants à ce stade est privilégiée, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Mais le procureur Brice Robin a été plus prudent, et heureusement quand même. C'est une des hypothèses envisagées, mais il n'y a aucune certitude sur le fait que ces 3 personnes étaient liées au trafic de stupéfiants. C'est quand même bien de le rappeler. Comme toujours, les autorités ont immédiatement endossé leur costume martial. Le Premier ministre Manuel Valls a tweeté « Rien n'arrêtera la détermination de l'État à lutter contre le crime organisé ». Pourtant, s'il y a un échec, c'est bien le leur. À la Cité des Lauriers, un réseau avait été démantelé en mai, mais le marché des stupéfiants déteste le vide. Faites tomber une filière, une autre la remplace. Saisissez 1 tonne, 2 sont déjà en route. La mécanique est implacable et François Hollande n'aurait pas dû plastronner le 18 octobre dernier devant les douanes pour les féliciter d'une saisie de 7 tonnes de cannabis à Paris. En la matière, il n'y a pas de succès. Les policiers agissent comme des régulateurs du marché et ce n'est pas leur faute. On tente de vider la mer avec une petite cuillère, résumé l'un d'eux il y a quelques années. François Hollande, je le rappelle, qui a déclaré officiellement qu'il espérait que cette saisie de 7 tonnes allait porter un coup déterminant au trafic de stupéfiants en France. On ne peut que rigoler lorsqu'on entend ce genre de déclaration. Ça fait vraiment de la peine. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a beau égrener les prises à Marseille en 2015, 10 réseaux majeurs de trafiquants démantelés, 132 personnes écrouées, 1,5 tonne de cannabis et 39 kilos de cocaïne saisies. Ce qui paraît gros, hein, mais honnêtement, c'est minable. Hein. Ça peut être un quart d'heure de pénurie dans la ville. Hein. Et encore, hein. Dans le mois, quoi, c'est-à-dire, c'est dire. Donc sa tâche est un mélange de Sisyphe et de tonneau des Danaïdes, synonyme d'éternel recommencement. En 2010, dans une autre cité marseillaise, le Clos des Roses, un jeune de 16 ans était mort sous les balles, créant une émotion intense. La réponse des autorités ? La gauche fait comme la droite, plus de police, plus d'enquêtes. Nécessaire, sans doute, suffisant, pas vraiment. 5 ans plus tard, malgré d'évidents succès policiers, on en revient au point de départ, avec sur le carreau non plus un jeune, mais deux. Il est temps de réfléchir autrement. Ce qui tue, ce n'est pas le cannabis, principal produit en vente dans ces cités. Ce qui tue, c'est la prohibition, système injuste et inefficace, mais meilleur allié des trafiquants, puisque l'interdiction du produit justifie leur activité. Il faudra un jour l'admettre, et ce sera douloureux, tant cela remet en cause les peurs, tabous et préjugés, mais d'autres pays s'en sont libérés. L'Uruguay s'est lancé sur la voie d'un marché régulé du cannabis par lassitude face au règlement de compte. En France, on doit se poser la question d'une forme de légalisation. Sinon, quel que soit le nombre de policiers et ministres envoyés sur place, d'autres ados tomberont sous les balles. Allez, un peu de musique avant de revenir à d'autres articles. On verra l'interview de Daniel Vaillant dans Public Sénat, un autre article de Public Sénat également. Et il faudrait que je vous parle de cet article publié dans témoignagechrétien.fr. La guerre du cannabis aura-t-elle lieu? Un article de Philippe Battel, qui est un addictologue, voilà, et qui dit des choses très intéressantes. Et dans Témoignage Chrétien, dites-vous bien que Témoignage Chrétien est plus progressiste que le Parti Socialiste, qui ne pense à quoi? Ben, qui ne pense qu'à la répression, en fait. Voilà, donc on va se mettre un peu de musique. Qu'est-ce que je vais vous passer Je suis tout seul ce soir, je vous ai pas dit, alors du coup j'improvise. C'est un peu plus compliqué techniquement, mais on va bien y arriver. À tout de suite avec un peu d'électro. 1997 et 2001 ou 2002, Daniel Vaillant, qui est lui-même l'initiateur des programmes, des lois de lutte contre la délinquance quotidienne, avec son premier projet de loi LSQ, loi de sécurité quotidienne, avant même la loi de sécurité intérieure de monsieur Sarkozy, qui finalement a repris l'idée à monsieur Vaillant, comme quoi, que ce soit le PS ou l'UMP finalement. Ils ont à peu près des deux côtés les mêmes fondamentaux en termes répressifs, voilà. Mais à l'inverse de Monsieur Sarkozy, Monsieur Vaillant, lui, après avoir quitté son poste, Daniel Vaillant s'est mis à devenir complètement anti-prohibitionniste. Et en 2011, il a été l'auteur d'un rapport préconisant une légalisation contrôlée du cannabis. Voilà, mais en tout cas, actuellement, ces idées, on sait bien, n'ont pas été reprises, et c'est bien regrettable. Et en tout cas, dans le cadre d'une interview où il répond aux journalistes de Public Sénat, il répond voilà, comment la France devrait évoluer selon vous, justement après les déclarations des ministres et notamment des députés, pardon, et notamment de Bruno Le Roux. Et il répond, bah voilà, j'ai été ministre de l'Intérieur, je n'étais pas ministre de la Santé, mais j'ai été confronté à la question des trafics et de leur répression, et je considérais qu'on était en échec. J'ai réfléchi, j'ai travaillé, je suis arrivé à une conclusion qui est la même depuis maintenant 12 ans, je suis contre le statu quo. L'immobilisme conduit à l'échec et nous y sommes à l'échec. On a beau saisir des tonnes de cannabis, cela veut dire qu'il y en a de plus en plus qui circulent. On utilise beaucoup d'argent au traitement social de la question, au traitement judiciaire et policier aussi, mais avec beaucoup d'inefficacité. La loi de 70, c'est-à-dire la prohibition, la loi de prohibition du cannabis, est d'une inefficacité crasse. Je pense que le cannabis est totalement comparable à l'alcool. L'alcool est autorisé selon des modalités, le cannabis est rigoureusement interdit, donc de plus en plus consommé. Alors oui, vous êtes, d'après les journalistes, célèbre pour votre position en faveur de la légalisation du cannabis. En tant que député PS, vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un rapport sur le sujet en 2011. Que préconisez-vous ? Je suis pour une légalisation contrôlée. La dépénalisation est pour moi de l'inachevé. On traite la question de la consommation qu'on dépénalise, qu'on contraventionnalise au mieux et on laisse le trafic se développer. Le produit est frelaté, souvent avec la molécule essentielle, le THC, à des taux de 30%. Très nocif pour la santé et le système nerveux de ceux qui le consomment et souvent de plus en plus jeunes. Je suis favorable à une démarche identique à celle de l'alcool ou du tabac par le passé, c'est-à-dire la mise en place des filières de production de cannabis bio avec un taux de THC limité à 8%, vendu à des majeurs dans des établissements qui payent des licences à cet effet. Alors là, pourquoi 8%? Pourquoi pas 9 ou 7 ou 11? On ne sait pas. Bon, c'est un peu caricatural, hein, ce que nous dit Monsieur Vaillant. Hein. Il a des bonnes idées politiques, enfin des idées intéressantes au niveau de la politique des drogues et du cannabis, mais il a une manière de comprendre les choses qui est pas un peu surprenante. Alors, j'ai aussi pensé, dit-il, à un établissement public qui vérifierait les importations et qui lutterait contre les trafics et productions intensives de cannabis fortement dosés en THC et donc fortement dangereux comme il en existe dans nos banlieues. Je voulais aussi, comme pour l'alcool, contraventionnaliser les conduites à risque, c'est-à-dire quand on fume du cannabis, on ne conduit pas. La légalisation semble un terrain miné politiquement. La gauche s'est d'ailleurs abstenue cette année au Sénat lors du passage de la proposition de loi d'Esther Benbassa dans ce sens. Le gouvernement n'a toujours pas non plus donné suite à mon rapport de 2011, dit Monsieur Vaillant. On voit à quel point il s'y intéresse. Hein. Je vois bien quelques bribes qui visent à contraventionnaliser plutôt qu'à pénaliser, mais cela ne me satisfait pas. La France devra évoluer. Ce sera peut-être plus facile lorsqu'on aura une harmonisation européenne dans le traitement de ce type de produit, plutôt que chaque État y aille de sa législation. La France a la législation la plus répressive et prohibitionniste, et c'est chez nous qu'on consomme le plus. Le débat ne doit pas être un débat droite-gauche, mais un débat de santé publique. De même, en France, l'alcool est autorisé, labellisé, maîtrisé, taxé, et nous faisons tout pour lutter contre la consommation excessive. Cela doit être la même approche pour le cannabis. Je n'ai jamais vu de mort par overdose de cannabis. Par contre, j'ai vu des morts par overdose alcoolique. En tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, vous approuvez la détermination de Manuel Valls dans la lutte contre le crime organisé. Oui, je ne suis ni un laxiste ni un libertaire. Au contraire, qu'on continue à réprimer le trafic, c'est très bien, mais d'une autre manière, plus efficace. Et à mon avis, ce serait d'enlever l'os à ronger pour les trafiquants en légalisant. Pourquoi ? Pourtant, on est souvent taxé de laxiste lorsqu'on. Pourquoi est-ce qu'on est souvent taxé de laxiste lorsqu'on touche à cette question ? Alors, le débat est tellement tendu dans la société que dès que vous prononcez des mots comme la fin de l'interdit ou légalisation contrôlée, immédiatement vous avez face à vous le FN, la droite, quand ce ne sont pas les gens de gauche qui ont peur d'appréhender la question et de lever ce tabou. Moi, je pense que le cannabis est une saloperie qu'il faut combattre, mais je ne crois pas que la manière dont on le combat aujourd'hui est la plus efficace. Je ne pense pas que ce soit venu le moment de légiférer sur cette question à l'Assemblée nationale, où on va recommencer ces débats éternels sur des sujets de société. Alors lui, il dit que c'est quand même pas le moment. Hein. C'est par la santé publique qu'il faut s'attaquer à cette question. Ce sera mieux que par une approche répressive ou par une approche qui ouvre de nouveaux droits. Ce n'est pas non plus la bonne entrée. Il faut du temps, il faut convaincre. C'est vrai que les périodes préélectorales ne sont pas les plus faciles pour ça. Voilà un peu ce que disait Monsieur Valls dans son interview. Ça me fait penser, j'ai pas remis l'article de la semaine dernière, mais il y avait un article très intéressant à propos du Portugal. Alors il y a eu un changement de majorité au Portugal, la droite est repassée au pouvoir. C'est dommage, la ministre de la Santé portugaise, il y a 3 semaines, avait quasiment carrément fait une proposition de loi de légalisation où il était possible d'ouvrir des cannabis social clubs au Portugal. Voilà, vraiment quand on sait ce qui se passe un peu ailleurs et notamment pas très loin de chez nous, hein, au Portugal, ça fait peur en France hein, quand même, franchement. Même d'après ce que dit Monsieur Vaillant, c'est quand même pas très très encourageant, même si c'est moins pire, vous m'excuserez mon pessimisme, mais je crois que je vais aller habiter au Portugal. Voilà. Sinon, toujours dans des articles de Public Sénat, je ne vais pas lire tout l'article, mais il y avait des choses quand même assez incroyables, encore une fois, sur ce sujet, on lit toujours des choses assez dingues. Là, c'est Bruno Beschiza, qui est un maire Les Républicains d'Aulnay-sous-Bois, qui a d'ailleurs été à l'origine de la proposition de loi de contravention dès le premier usage du cannabis. Là, c'est le 17 septembre dernier. Hein. Voilà. Alors il dit comme ça quand même que c'est un ancien officier de police. Hein. Il dit l'inscription du délit de consommation au casier judiciaire doit rester la règle, dit-il. Et il dit comme ça, si Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur en 2003, avait évoqué cette possibilité de transaction pénale pour les usagers de cannabis, il ne l'a pas appliqué car entre-temps, il a consulté des experts. Alors écoutez bien, les experts en question, c'est des policiers qui lui ont expliqué quel problème il y aurait en termes de santé publique. Je ne savais pas que les policiers étaient des experts en santé publique. Alors là, franchement, je viens d'apprendre quelque chose. Merci, monsieur Bruno Beschiza. Si vous voulez, on a les experts qu'on mérite, hein, et la qualité de l'expertise en conséquence. Si vous légalisez du cannabis à faible taux de THC, nous dit monsieur Beschiza, vous allez voir sur le marché mafieux du cannabis avec un taux de THC à 25%. Extrêmement nocif, nous dit-il. Ouais. Et ils ont jamais pensé que, par exemple, il pouvait y avoir différents degrés de puissance du THC, comme il y a différents degrés d'alcool. Non, visiblement, ça les effleure même pas. Bon, bref. Dans cet article, ce qui est intéressant, ce sont les propos d'Esther Benbassa, qui, encore une fois, dit des choses quand même un peu plus intéressantes que les autres. Et elle dit comme ça, c'est quand même surtout la misère et l'exclusion qui conduisent au crime. Hein. Elle dit, quand vous faites des études et que vous n'êtes pas discriminé, et que vous n'avez pas envie d'être un dealer. Voilà. L'élu écologiste s'appuie aussi sur l'exemple américain de l'État du Colorado. Depuis 2012, l'usage récréatif de la marijuana est légal. Le marché criminel a baissé, dit-elle, le nombre de consommateurs est stable et l'argent gagné sert désormais, par exemple, à moderniser des écoles. Ça serait quand même pas mal, hein. Selon une étude de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, la France fait quand même partie des plus gros consommateurs de cannabis. Nous le répétons, l'année dernière, 17 millions de personnes déclaraient avoir déjà pris du cannabis au moins une fois au cours de leur vie. Voilà. Sinon, dans Courrier International, un tout petit article très intéressant, France banlieue, l'autorité n'est pas la bonne réponse. J'arrive pas à savoir qui répond à ces questions, mais en tout cas c'est quand même assez intéressant ce qui peut se dire. Le 24 dernier, une nouvelle fusillade a fait 3 morts dans un quartier de Marseille. Quelle est votre réaction? La personne qui répond, et je sais pas qui c'est, je suis désolé. Cela montre encore une fois qu'il faut légaliser le cannabis car le problème des banlieues est lié à la drogue. En la matière, la France mène une politique désastreuse et arriérée. Beaucoup d'autres pays ont déjà franchi le pas, mais pas la France. Les violences dans les quartiers sont le prix à payer pour cette politique de l'autruche et cette vision dogmatique. 10 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois, Manuel Valls a annoncé des mesures pour les banlieues. Outre le problème de la drogue, il n'y a pas de politique sérieuse vis-à-vis des quartiers difficiles. On fait des annonces, mais il n'y a aucune réflexion à long terme. Que les policiers portent des caméras ne changera rien à leur rapport avec la population. En France, la police donne l'impression de protéger l'État plutôt que les citoyens, et cela favorise les conflits. À l'étranger, quand j'ai besoin d'un renseignement, je demande à un policier. En France, au contraire, j'en ai peur. D'une manière générale, le gouvernement ne pense qu'à la réponse sécuritaire, en particulier Monsieur Valls, qui n'a que le mot « autorité » à la bouche. Pourtant, la manière forte n'est pas la réponse. Elle est justement, par contre, la source des problèmes. Comment s'y prendre alors? À la base, la société française est profondément inégalitaire. Et oui, c'est bien de le redire, hein, parce que franchement, sur le fronton des mairies, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. C'est un peu de la publicité mensongère, voire carrément. Les banlieues sont tenues à l'écart. Pourquoi si peu de transports en commun? Pourquoi n'y a-t-il aucun ministère en banlieue, par exemple? Donner de l'argent aux banlieues ne changera rien. Il faut que les politiques abandonnent leur discours sécuritaire et sortent de leur bulle. Qu'ils arrêtent les grands discours et se rendent vraiment sur le terrain. Il faut réduire l'écart entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà, déclaration intéressante de ce témoignage de ce personne dont je ne sais pas le nom. Et donc voilà, on va très vite maintenant aller dans cet article de témoignagechrétien.fr. La guerre du cannabis aura-t-elle lieu? Un article écrit par Philippe Battel, qui est addictologue et qui travaille à la clinique des addictions de Montevideo à Boulogne-Billancourt. Et donc il dit comme ça, addictologues et experts en santé publique sont unanimes, la légalisation de la production et de la vente de cannabis est la seule solution pour assécher le trafic et mettre en place une réelle politique de soins et de prévention. Mais il se lasse de ne pas être entendu. La récente saisie de 7 tonnes de résine de cannabis en plein Paris aura en quelques heures ravivé l'espoir d'une lutte efficace de l'État contre le trafic de drogue. François Hollande n'a pas hésité à venir en personne féliciter les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Du coup, qui serait fatal, porté au réseau de trafiquants. Ah, le beau rêve, 7 tonnes. C'est en effet une belle prise au prix du marché. Cela représente entre 10 et 15 millions d'euros de manque à gagner pour des grands bandits ou des financiers d'entreprises terroristes. Mais 7 tonnes, ce n'est que 2,3% des 300 qui sont consommés en France en un an. Et la manne financière d'une telle saisie partira en fumée sans venir combler les 230 millions dépensés annuellement pour tenter d'endiguer un marché plus florissant chaque année. Je pense que le rêve de François Hollande et de bon nombre de nos concitoyens est un fantasme. J'ai une grande confiance dans la puissance publique quand elle reste réaliste et adaptée. Les politiques publiques en la matière sous quelques gouvernements que ce soit ont démontré leur incapacité et répété à diminuer le nombre des expérimentateurs et consommateurs de cannabis de plus en plus précoces. La modification récente des contraventions pour usage aura, de l'avis de nombreux spécialistes, peu d'effets sur la consommation. Le contrôle du marché est laissé aux trafiquants. Cette entreprise criminelle, mais surtout commerciale, élabore un produit de plus en plus concentré en THC afin d'accrocher plus vite la clientèle. La lutte entre sous-traitants rivaux contribue à l'insécurité dans les banlieues comme au cœur des grandes villes. La guerre du cannabis est autant celle des distributeurs que celle des prix. Et d'un produit de plus en plus attractif. Quand sera menée la guerre commerciale contre les trafics du cannabis pour enfin financer celle sanitaire et sociale qui permettrait de traiter et de prévenir les dommages de sa consommation? De plus en plus de pays ou d'États ont, ces 10 dernières années, sorti cette drogue de son statut inconfortable en régulant étatiquement sa production, sa vente et sa distribution. Les différents modèles ont été évalués et permettent d'orienter désormais plus précisément les projets de réforme des politiques publiques. En Espagne, par exemple, la dépénalisation complète a causé une augmentation des consommateurs. L'Uruguay, en revanche, a mis en place un monopole d'État de la production jusqu'à la vente. L'instauration de ce type de régulation, en interdisant la vente et la consommation aux mineurs et en imposant un prix élevé, est l'une des plus probantes. Et pourrait générer des recettes de près de 2 milliards pour l'État. Un grand nombre de professionnels de l'addictologie et d'experts de santé publique prônent la régulation. Mais tant que l'opinion publique gardera une représentation soit banalisante, soit diabolisée de ce produit et de ses méfaits, il est clair qu'on ne changera rien à cette mauvaise loi. Monsieur le Président, cessez de rêver à voix haute et servez-vous de votre impopularité pour entreprendre la vraie guerre contre le cannabis, celle commerciale, administrative et juridique d'un monopole d'État. Tout au moins, ouvrez le débat. Voilà, un article, donc une tribune très intéressante publiée sur le site internet témoignagechrétien.fr. Oui, vous avez bien entendu, témoignagechrétien.fr. Voilà, il nous reste encore 5 minutes, on est allé assez vite, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de la consommation de drogue au travail. Alors je vais pas vous parler de tous, je vais vous parler surtout de l'interview de Daniel Jourdain-Méninger, qui est la présidente de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives. La MILDECA qui remplace la MILT, M-I-L-D-T. Madame Jourdain-Méninger devrait pouvoir être un interlocuteur ou une interlocutrice en ce qui concerne les lois sur les drogues, mais pas du tout. Bref, en tout cas, elle répond un peu à l'interview de... C'est dans leparisien.fr. Les Français dans le monde du travail sont-ils accros aux produits? Et elle dit comme ça, c'est un sujet de préoccupation. En tout cas, l'enquête que nous avons fait, réalisée auprès des dirigeants et des représentants du personnel sur la consommation de produits actifs dans le monde du travail, montre qu'une grande majorité d'entre eux sont préoccupés par l'impact de ces substances dans la vie des entreprises ou dans celle des services publics. Quels sont les principaux problèmes identifiés? Alors, Madame Jourdain-Méninger nous dit que la consommation d'alcool reste le principal souci. Ah, il génère beaucoup d'absentéisme, des retards fréquents et des conflits entre les salariés. La e-cigarette au travail est aussi un sujet émergent qui peut provoquer des tensions entre collègues de bureau. Oh, la cigarette électronique, eh ouais. Mais cela reste encore marginal. Bon. En revanche, un dirigeant sur 10 évoque le problème de l'usage de cannabis dans le monde professionnel. Ah, ce qui entraîne des baisses dans la productivité et des retards. Tout cela pose aussi des graves problèmes de santé publique. Lesquels ? Ça, on ne sait pas, c'est pas écrit. Donc, le journaliste pose cette question à Madame Jourdain-Méninger. Mais que voulez-vous faire ? Que doit faire la MILT ? La MILT des cas ? Et elle dit, il y a un déni sur ce sujet en France. On tire la sonnette d'alarme car cela peut aboutir à des drames terribles, comme on l'a vu, hélas, dans l'affaire de la clinique d'Orthez. Alors, on va voir ce que c'est la clinique d'Orthez, le drame de la clinique d'Orthez un peu après. Et ça concerne pas du cannabis. Enfin bon, bref. Donc voilà, encore une fois, on mélange un peu tout et n'importe quoi. Cela a créé un choc, l'histoire de la clinique d'Orthez. Nous voulons donc davantage repérer les conduites individuelles à risque. Nous allons donc former l'ensemble des 6000 médecins du travail pour qu'ils repèrent les conduites addictives et orientent les personnes concernées vers les bons dispositifs de prise en charge. Cela permettra de faire baisser le nombre d'interruptions temporaires de travail et de limiter les accidents, nous dit Madame Jourdain-Méninger. Par contre, bah, on se pose pas la question de l'augmentation des rythmes de travail, de la flexibilité, des pressions subies au travail, des cadences. Voilà. Peut-être que si on parlait de ça, déjà, on pourrait peut-être un peu mieux comprendre les problèmes ou les affaires d'usage de produits au travail. Mais non, bah non, on en parle pas du tout, ça. Faut pas en parler. On préfère parler du fait qu'il y ait des gens qui fument du cannabis et que du coup ça nuit à leur rendement et ça provoque de l'absentéisme et des retards, là, c'est plus important dans une société productiviste comme la nôtre, c'est logique. C'était quoi l'affaire de la clinique d'Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques? C'était quoi? C'était un peu plus d'un an, le 26 septembre 2014, c'était une anesthésiste belge, Helga Wouters, sous l'emprise de l'alcool au moment où elle entre dans la salle d'accouchement pour pratiquer une péridurale sur une Britannique de 28 ans. Une césarienne donc qui devait être réalisée, mais elle a rencontré un problème avec l'usage du matériel. Elle n'a pas réussi le geste chirurgical. Elle a confondu les voies digestives et respiratoires. Voilà, donc l'expertise a montré qu'elle avait consommé de l'alcool en quantité très importante au cours des 48 heures précédant l'accouchement, notamment de la vodka. De l'alcool et de la vodka, voilà. Bon, c'est pas du cannabis, hein. Ceci dit, fumer du cannabis au boulot, notamment quand vous faites un métier comme celui-ci, et si vous êtes dans un état second, ben, c'est pas recommandé non plus, c'est sûr. Voilà. C'est pas nouveau hein, que les médias s'intéressent de plus en plus à l'usage des drogues au travail. C'est pas très, très surprenant non plus. Parce que dans une société qui prône le productivisme et la croissance, forcément, il y a une logique. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus, c'est la fin, maintenant ça va être Chasseur de son jusqu'à 22h, Chasseur de son qui est bientôt prêt, branche les derniers jack, un live ce soir encore dans l'émission, vous allez pouvoir écouter de la musique électronique une bonne partie de la soirée durant cette heure de direct. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus sur Radio Canu, Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Merci à toutes et à tous de nous être fidèles comme chaque lundi de 21h à 22h. Voilà, et bien à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.